Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, tous les passionnés du vin et de la vigne, ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée. Nous sommes chez Nicolas à Paris, vous écoutez le numéro 1055 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004, on salue par exemple, tu as les auditeurs qui nous écoutent, à Périgueux, pourquoi pas sur 104.9 et retrouvez-nous sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui une très belle balade entre le Beaujolais et le Cognac qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. On parlera tout à l'heure avec Édouard Bastad de son cognac hein, qui porte son nom et qui a été créé il y a fort longtemps, du Vino Quiz également, avec un coffret Divine et puis 6 flûtes Exaltation de la marque Chef et Sommelier. Ça sera gagné en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés pour nous accompagner pendant cette émission, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Et Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde, millésime 1992. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir Christophe Lançon, qui est propriétaire du domaine de l'Herlou au cœur du Beaujolais. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors vous êtes polytechnicien au départ, mais après vous êtes parti dans la finance à Londres, c'est encore pire. Mais après vous êtes devenu normal en embrassant ce beau métier de vigneron.
Exactement.
Vous avez mis un peu de temps quand même. Hein,
voilà, exactement. Comme nul n'est parfait, il me manquait une corde à mon arc. Et j'ai toujours voulu faire une chose qui me plaisait depuis que je suis un jeune homme. Avec mon père, nous avons décidé de faire du vin. C'était il y a 30 ans.
Donc tout le pognon que vous avez gagné dans la finance, vous l'avez perdu dans le vin.
Je le bois désormais.
Hélène ?
Alors, nos auditeurs ne le voient pas, mais vous êtes très jeune. Alors, je vais commencer par une question très indiscrète. Vous dites que vous êtes tombé dans le vin il y a 30 ans. Mesdames Ned, quel âge avez-vous ?
J'ai 55 ans.
Eh bien, vous ne les faites pas. Voilà.
Vous êtes très jeune.
Il faut que nos auditeurs aillent au domaine de l'Herlou pour constater que Christophe Lançon a l'air d'avoir 22 ans.
Oui, est-ce que c'est l'Herlou ? Il peut aller à Lourdes, on peut aller également la cure de Jouvence.
Eh bien, peut-être que la cure de Beaujolais, ça marche pareil.
Exactement, il y a une prescription, une bouteille chaque jour et tout va bien.
Avec modération, bien sûr.
Avec modération,
évidemment. Et avec des amis.
Et avec des amis, plein de copains, tout ça.
On est d'accord. Donc, effectivement, depuis 1993, avec votre papa, vous êtes tombé dans le Beaujolais. Donc, ça s'est fait comment ? Pourquoi là et pas ailleurs ?
Ça s'est fait parce que je suis né à Lyon et que le Beaujolais, pour les Lyonnais, c'est la troisième rivière de Lyon. Et que tout naturellement, quand nous avons décidé de faire du vin, on s'est installé dans le Beaujolais.
D'accord.
Ça coule dans les veines.
Et à l'intérieur du Beaujolais, pourquoi Villiers-Morgon ?
Alors, Villiers-Morgon, c'est la capitale du cru Morgon. Morgon, c'est un terroir magnifique. Et quand on aime le vin, on ne peut qu'aimer le vin de Morgon.
Et vous l'avez créé, le domaine, ou vous l'avez racheté ?
Nous l'avons repris. Il y a certaines vignes qui sont centenaires aujourd'hui. On l'a racheté, on l'a remodelé, on l'a fait grandir. Et aujourd'hui, nous avons 11 hectares de vignes en Morgon, en appellation fleurie. Également, nous produisons un petit peu de vionnier, un vionnier qui s'appelle les granites de Bellevue.
Alors on va y venir parce que du vionnier chez vous, c'est effectivement pas banal. Mais on va continuer un peu sur les origines quand même. D'abord, qui a mis le premier les mains dans la cuve ? Vous, votre papa, ça s'est fait comment ?
C'est mon père qui a commencé. J'étais jeune, venais de me marier, j'avais des enfants.
Il faisait quoi le papa ? Il était vigneron ou pas ?
Pas du tout.
Ouais,
il vendait tout un tas de choses sauf du vin.
Il était commerçant.
Il était commerçant.
Ce qui est déjà pas mal parce que faire du vin c'est plutôt facile, mais le vendre c'est pas évident non plus.
Avant tout, c'est un grand amateur de vin. Et puis dans la famille, on a toujours un grand attrait pour la nature. Donc on s'est retrouvé tout naturellement à faire du vin petit à petit et à apprendre sur le tas.
Donc effectivement aujourd'hui, 7 hectares de Morgon, 3 hectares de Fleury, sur des climats très réputés, hein, Corselette, Bellevue et les côtes en Morgon, Poncier et les combes en Fleury. Et puis effectivement, ces granites de Bellevue.
Alors les granites de Bellevue, c'est une chose un petit peu particulière. C'est d'ailleurs un petit peu le fruit du hasard. Il se trouve qu'il y a 5 ans, j'ai eu la chance de reprendre des vignes qui étaient en friche. Je me suis posé la question, avec mon père, avec ma femme, etc., de savoir ce qu'on allait faire de ces vignes. Et comme vous le savez, il n'existe pas de cru du Beaujolais en blanc. Et le vin blanc manquait à, je dirais, notre carte. On a décidé de faire du vin blanc. Et nous avons trouvé que, naturellement, le vionnier était le cépage le plus adapté à notre terroir.
Parce que ça existe, le Beaujolais blanc.
Oui,
mais habituellement, ce n'est pas le vionnier.
Le Beaujolais blanc. Mais il n'est pas cru, mais le vôtre non plus.
Exactement. Le Beaujolais blanc n'est pas produit dans la région des crus. Il est produit plus au sud, sur des terroirs qui sont calcaires. Or, les crus sont en terroir granitique. Et il y a un exemple particulièrement réussi d'une alliance d'un terroir granitique avec le vionnier. C'est Condrieu, bien évidemment.
Bien sûr. Philippe Forbach, un petit mot sur les Beaujolais blancs, de façon générale ?
Comme vient de le dire Christophe, ils sont produits plutôt dans les zones de type argilo-calcaire, parce que c'est vrai que le chardonnay s'y prête bien. Et ça représente une petite partie, bien entendu, du volume du Beaujolais, mais ceux qui en font s'appliquent, et le font plutôt bien d'ailleurs. Il y a un cru d'ailleurs qui est le Saint-Véran, qui était considéré un peu comme le Beaujolais blanc de la partie des crus, quelque part, parce qu'il est, il est à proximité. Mais effectivement, dans, dans les crus, je rejoins la, la démarche d'ailleurs de Christophe Lançon, à savoir que sur les granites, le chardonnay va moyennement bien, alors que le viognier il trouve sa place depuis très longtemps. Et en plus, avec l'évolution du climat, on s'aperçoit que les cépages ont tendance à monter un peu, ce qui n'était pas nécessairement les bienvenus. Et dans le Beaujolais, on n'est pas très loin d'ailleurs, on est au Nord-Rhône, sud Beaujolais, on est très proche, c'est le même massif granitique. On a des plantations de Syrah aussi en Beaujolais. On a effectivement des pensions de Viognier, on a des essais de différents cépages.
On a même du Gamay.
Plutôt, et on y conserve bien entendu le Gamay, mais on y a aussi des invités qui réussissent plutôt bien.
Alors, ce Viognier, on termine sur le Viognier, donc ça donne quoi exactement? C'est par rapport au cousin Condrieu?
Alors, le Viognier, une caractéristique, c'est que c'est un cépage qui va donner des vins naturellement très ronds et très riches. Et l'alliance avec le granit va lui permettre de conserver sa fraîcheur. Nous utilisons une manière de vinifier un petit peu particulière, c'est notre petit secret. On fait en sorte que la moitié de nos vins soient élevés en cuve, de telle manière à ce qu'ils conservent une belle fraîcheur, une belle tenue, et l'autre moitié est vinifiée en barrique pour prendre la rondeur des vins. Et on essaie d'assembler les deux de telle manière à avoir un mélange très harmonieux.
Alors vous aimez bien le hors-piste en vinification, parce que pour le Beaujolais, qui est traditionnellement macéré en grappe entière sous gaz carbonique, vous faites aussi des choses un peu différentes, vous égrappez souvent.
Oui, tout à fait. Ça dépend de l'année, ça dépend de la qualité de la rafle, c'est-à-dire de la manière dont l'herbe se transforme en bois. Lorsqu'on a une rafle peu mûre, nous avons des tanins qui sont très verts, Et donc non désirables, on a tendance à les enlever en égrappant. Lorsque nous avons des bois qui sont très mûrs, des pépins qui sont très mûrs, qui vont apporter du tanin au vin et lui permettre de bien s'exprimer, à ce moment-là, on va conserver.
Et millésime 2021, Christophe, vous avez quelques petits soucis ou pas?
Le millésime 2021, c'est un millésime de vigneron. C'est-à-dire qu'on est parti envers et contre tout. En ce qui concerne le domaine de l'Herlou, on a beaucoup de chance, puisqu'on a réussi à passer à travers le gel. Nous avons su...
À zéro gel? Ah ben bravo.
Chez nous, nous sommes en coteaux. Figurez-vous que le gel a tendance à descendre et à rester dans les plaines. Donc notre altitude plus élevée nous a été favorable. On est passé à travers les épisodes de mildiou et un climat qui était moyen, tout le monde s'en souvient. Et j'ai la chance d'avoir un cuvage plein aujourd'hui et je m'en réjouis.
Ah ben bravo pour vous en tout cas,
oui,
Hélène.
Effectivement, c'est une grande chance parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Oubliez qu'on est à moins 29% de volume global sur toute la France.
C'est énorme.
Un tiers de récolte, et on passe pour la première fois troisième pays producteur au monde puisque l'Italie reste premier, mais l'Espagne nous a dépassé et nous sommes maintenant le troisième pays producteur.
Allez, c'est mieux l'année prochaine.
Mais on va espérer très fort.
C'est conjoncturel.
Alors passons à vos vins justement, donc deux gammes, la gamme domaine et la gamme réserve.
Oui, on a eu la volonté d'avoir deux vins, un qui s'inscrit pleinement dans la tradition beaujolaise, ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des vins qui sont très précis, avec une structure toute fine, mais on a également cherché à retrouver nos racines, notre identité, qui a été perdue avec l'épisode Beaujolais Nouveau, où nos vins étaient bus bien trop jeunes. Or, un terroir, pour s'exprimer, il lui faut du temps. Il faut des vinifications qui sont longues, il faut cuver à relativement basse température, il faut parfois savoir égrapper, etc. Et il faut savoir élever le vin.
Et ce Beaujolais Nouveau, on en est où? Parce que là, en cette période, là, 20 novembre, dites tout, ça marche toujours ou pas?
J'ai l'impression que le Beaujolais Nouveau marche très bien, surtout avec la pénurie de vin. Ce que j'entends du domaine, puisque je n'en produis pas, ce que j'entends de la région, pardonnez-moi, c'est qu'effectivement, il y a une grosse demande.
Alors Philippe Forbat, puisque voilà, c'est les primeurs, ça marche toujours, là, Beaujolais inclus et autres régions.
Oui, et Côte-du-Rhône, le seul qui a vraiment du mal cette année, qui n'a quasiment pas fait, c'est Muscadet, qui a une tradition mais c'est un vignoble qui a été sinistré cette année par tout ce qu'on vient d'expliquer avec Christophe Lançon notamment. C'est très compliqué pour cette appellation, mais sinon Touraine, Gaillac, les volumes pour le Beaujolais restent importants. Pour les autres régions, on a tendance un peu à baisser ces dernières années. Même si l'enthousiasme perdure ce jour-là, avant, ça durait jusqu'à Pâques, quasiment.
C'est ça, quoi. Ça dure une journée ou deux, quoi.
Après, aujourd'hui, c'est la semaine où ça sort, où tout le monde a envie de faire ça, ces jours-ci. Mais ça, le phénomène s'estompe assez rapidement.
Hélène ?
Et c'est vrai, Christophe a raison. Il y a cette fête qui est très sympa. C'est toujours rigolo d'aller faire la fête du Beaujolais Nouveau. Mais les Beaujolais se conservent très bien, 5-10 ans sans aucun problème. Alors, vous avez le recul, vous, justement, sur vos vieux millésimes?
Oui, non seulement j'ai le recul, mais c'est un petit peu notre marque de fabrique. C'est-à-dire que je ne vends évidemment pas 2021, puisqu'il est encore en cuve, ni 2020, ni encore 2019. Les millésimes que vous trouvez chez nous sont des millésimes de type 2015, 2014. et on va jusqu'à 2009.
Voilà, c'est chouette. Et ça donne quoi en 2009 alors, dites-nous.
C'est magnifique, il faut que vous le goûtiez. Je n'aurai pas les mots pour le décrire.
C'est magnifique. Donc,
Philippe, de façon générale, ce gamay, ça pilote après quelques années ou pas?
Non, c'est ce que l'on dit, surtout dans les crus comme Morgon, qui Morgonne, Moulin à Vent, qui effectivement a tendance à pinoter aussi. Donc, mais il ne faut pas oublier que le gamay.
Saint-Amour, qu'est-ce qu'il fait Saint-Amour?
Il ne faut pas oublier que le gamay et le pinot noir sont issus de la même famille dans pélographie. Donc, c'est un cousin. Donc, il y a une certaine logique à ce que quelque part. Et avec le temps, et c'est formidable ce que disait Christophe Lançon tout à l'heure, quand c'est jeune et quand c'est vinifiant et bu en primeur, c'est le cépage, c'est la qualité variétale qu'on exprime. Exprimer le sol, la géologie, l'histoire, etc., c'est que le temps qui va le permettre. Et au plus on avance dans le temps, au plus on fait et les cépages, d'une façon générale, se rapprochent un peu. Les arômes tertiaires, ces arômes de sous-bois, ce côté humus, ce côté truffé, etc. Et puis, on les a dans un certain nombre de vins.
Donc, quelque part, c'est un bon plan, un Morgon un peu âgé.
Oui, et puis ça reste souvent accessible. Je sais pas
combien vous les vendez,
les
vendez,
mais j'espère que vous les valorisez au mieux. Mais souvent, c'est quand même accessible.
Oh oui, vous trouvez nos bouteilles à un petit peu moins de 20 euros la bouteille.
Ouais, y compris le 2009.
Oui, 2009.
Ouais, donc c'est quand même un très bon plan. Ça. La gastronomie, bon qu'est-ce qu'on peut imaginer avec votre Morgon 2009, ou alors un peu plus récent d'ailleurs, qu'un petit de plat, vous nous conseillez quoi? Qu'est-ce que vous préparez à votre épouse que vous aimez tant?
Ah, je prépare de bons petits plats à mon épouse que j'aime tant.
Quel est son prénom?
Héloïse.
Héloïse, on l'embrasse.
On salue Héloïse.
Je l'embrasse également.
Bonjour Héloïse.
Le boudin aux pommes va très bien avec un vin tout simple, tout jeune. Mais dès que vous allez faire un gibier, dès que vous allez cuisiner des plats un petit peu longs, avec des arômes de sous-bois, comme le disait très bien Philippe Forbrac, avec des arômes de fruits, les mariages sont très faciles.
Vous avez un site internet peut-être pour prendre enseignement, c'est ?
Et oui, l'airloup.com.
Et dernier détail pratique, température de service, faut pas les massacrer vos grands vins.
Non, entre 14 et 16, 17 degrés.
Et le vionnier ?
Le vionnier, jamais trop froid, c'est le gros danger, entre 10 et 13 degrés.
Philippe, justement, pour terminer, là, côté vieillissement, ces vins, ces grands vins du Beaujolais rouge, on peut les attendre longtemps, pas ?
Oui, bien entendu, on pense souvent que c'est entre 5 et 10 ans que c'est le moment de les boire et qu'après c'est un peu dommage. Et on s'aperçoit que quand on prend entre le risque de la patience, on est récompensé. Une dizaine d'années sans aucun problème, une vingtaine d'années, c'est souvent très bien pour les grands millésimes. Et aujourd'hui, on peut goûter des vins des années 90 encore, qui ont, par exemple, 1990, j'ai goûté ça il y a pas très longtemps, même.
Et c'était bien encore.
89, sur des crus comme Morgon, Moulin à Vent, etc., il n'y a aucun problème.
On se régale. Merci beaucoup, Christophe Lançon. Merci également à Hélène et à Philippe. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas. Nous sommes place de la Madeleine à Paris pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner un superbe coffret Divine et 6 flûtes exaltation de la marque Chef et Sommelier.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Philippe Forbrac, c'est à vous maintenant pour le Vino Quiz.
Et oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc cette semaine un coffret Divine et 6 flûtes exaltation de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table. Concentrez-vous, la semaine dernière la question était à qui Pierre Desprats, propriétaire du vignoble Desprats Verny, Saint-Verny d'ailleurs, dédie-t-il sa cuvée iconique, la légendaire? Réponse A à son grand-père, réponse B à Lancelot du Lac, réponse C au roi Arthur.
Et la réponse est...
La bonne réponse était la réponse A, son grand-père.
Et cette semaine donc Philippe?
La question du week-end, sur quelle appellation de Beaujolais, Christophe Lançon, propriétaire du domaine L'Air-Loup, possède-t-il des hectares? Réponse A, l'appellation Fané. Réponse B, l'appellation Fleury. Réponse C, l'appellation Bourgeon.
Voilà, pour répondre. Très, très connu.
Et essayer de glaner. Un coffret Divine, 6 flûtes exaltation de la marque Chef et Sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et en espérant que vous soyez tirés au sort pour avoir des bonnes réponses.
Merci beaucoup Philippe Forbrac. Invino sur Radio accueille maintenant Edouard Brastad. Bonjour Edouard.
Bonjour à vous.
Alors racontez-nous là votre histoire de cognac. Ça débute en 1875, vous n'êtes pas trompé d'année là?
Non, pas du tout.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque?
Alors en 1875, il y a un jeune homme qui s'appelle Médéric Typhon, qui serait l'équivalent de mon arrière-arrière-grand-père, qui crée donc une distillerie à Jarnac, et qui va être repris par mon arrière-grand-père, qui est norvégien. Et
donc vous êtes un mélange franco-norvégien?
Exactement.
C'est génial.
Comme il y en a quelques-uns dans la région de Cognac.
Ah oui, et alors pourquoi la Norvège? Ça pourrait être la Belgique ou l'Espagne ou l'Italie. Il y a un lien particulier avec la Norvège?
Oui, il y a un lien assez fort. En effet, il y a pas mal de Norvégiens qui ont immigré dans la région de Cognac à l'époque pour s'installer dans la production de Cognac.
D'accord.
Et alors, je n'ai pas la raison, Je pense qu'à l'époque, la Norvège n'avait pas encore découvert tous les hydrocarbures qui étaient dans le sol. Donc, ce que j'ai entendu dire de ma famille...
Ah, c'est que la marche sur le pétrole par rapport à la marche sur le cognac, hein, c'est pas le même plaisir non plus. Hein.
C'est pas les mêmes odeurs, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas les mêmes vertus. Hein.
Et donc, c'était pas un pays forcément très riche à l'époque, et donc il y avait beaucoup de gens qui immigraient partout dans le monde.
Hélène.
Et quitte à émigrer, moi je suis d'accord, autant émigrer à cognac, hein, tant qu'à faire. Si j'avais fait le choix, j'aurais fait la même. Alors, ce Norvégien, Sverre Brastad, a donc la bonne idée d'arriver à Cognac en 1899, de rencontrer Edith Rousseau, héritière des établissements Typhon, de l'épouser et de reprendre du coup l'entreprise en 1919.
C'est exact.
Il veut du vigneron par alliance, c'est ça ?
Exactement.
C'est un bon plan, ça, d'épouser la fille du vigneron, non, Philippe ? De votre général ?
Les exemples sont nombreux. Les gens qui sont venus faire les vendanges, donner un coup de main à la cave, etc. Et qui ne sont jamais partis,
un
finalement.
Un coup de main. Alors, en tout cas, ça conserve. Parce que Sverre est décédé à 99 ans et 10 mois. Donc, à 2 mois près, il était centenaire.
Ouais,
donc,
ils ont le même problème, les Norvégiens en foot. Hein. Ils sont presque...
c'est pas sympa ce que vous venez de dire à Lamartine.
En tout cas, c'était 99 ans et 10 mois. C'est la centième année, quand même.
Absolument. Et il a eu le temps d'en faire des choses en 100 ans. Il a eu le temps de monter cette magnifique maison de cognac qui est l'une des très rares à tout maîtriser, de la vigne jusqu'aux bouteilles. Et elles ne sont pas si nombreuses.
Non, elles ne sont pas si nombreuses, en effet. Et c'est vrai que c'est un peu une de nos singularités. Donc, comme vous l'avez précisé, donc on a nos propres vignes, donc 40 hectares. On a notre propre distillerie, composée de 10 alambics, que je vous invite à venir découvrir un jour.
On peut visiter ?
Avec grand plaisir.
Ah oui. Donc, vous accueillez des touristes, hein, des visiteurs ?
On accueille des visiteurs, des professionnels.
Combien de personnes par an ?
On ne chiffre pas.
Plus de 10 quand même, non ?
Ah oui, c'est plus de 10. Ouais. L'intérêt, nous, ce qu'on adore, c'est vraiment faire partager notre métier. Mm-hmm. Et le meilleur moyen, c'est que les gens viennent nous voir, qu'on puisse leur expliquer comment on travaille, ce qu'on fait, qui on est. Et après, c'est à eux de nous juger.
Et vous avez organisé un circuit ? C'est-à-dire qu'il y a une petite boutique ?
Alors, il n'y a pas un circuit, c'est pas. C'est plus.
On n'est pas au sein ni chez Annecy, ni chez Martel, dans les grandes maisons, quoi.
Non, respect pour les très beaux parcours de visite qu'ils ont.
Absolument.
Mais non, c'est, je dirais, beaucoup plus
artisanal,
humble.
Artisanal, quoi.
Oui, artisanal. Et donc, l'idée, c'est vraiment de les amener au cœur de la production de cognac, soit à travers leur montrer les différentes étapes, la vigne, la distillation. Le vieillissement, l'embouteillage, et bien sûr on a un petit espace de dégustation à la fin, où on peut déguster et où ils peuvent acheter nos produits si ça leur plaît.
Et vieillissement sous bois notamment.
Bien sûr.
Vous avez une tonnellerie aussi, ou là vous extériorisez, j'allais dire, la production.
Alors, on ne fait pas nos bouteilles et on ne fait pas nos barriques. Il y a quand même on limite ni les bouchons.
Ils n'ont pas encore arraché la ville de Cognac. Ouais.
Non, parce qu'il y a des maisons, effectivement,
bien sûr,
un volume plus important.
Tout à fait.
Leur propre
tonnellerie, et pour pouvoir maîtriser justement la provenance de leur bois, le séchage des merins, le cerclage, enfin le façonnage.
C'est beau, d'ailleurs, le cérémonial. C'est impressionnant.
C'est un vrai travail, c'est un vrai univers. Et d'ailleurs, l'appellation cognac nécessite beaucoup de barriques. C'est un des principaux débouchés, effectivement, pour les maisons productives.
Et d'ailleurs, quand on passe dans la région, il y a toujours le musée du cognac, je suppose, à Cognac.
Tout à fait.
Ça, c'est très sympa. Il faut y aller. Hein.
Très intéressant, en effet.
Voilà, on va déguster un peu chez vous, puis après, on va à Cognac. Hélène ?
Alors, on va plonger un peu plus loin dans le cognac, au niveau des crus, puisque donc vous, vos 40 hectares, c'est 30 hectares en fin bois et 10 hectares en grande champagne. Alors, on va rappeler les 6 crus de grande champagne, petite champagne.
Borderie, fin bois, bon bois, et bois ordinaire.
Absolument.
Et les moins bons, ce sont lesquels ?
Où ça se situe, donc on est au nord de Bordeaux.
C'est un petit peu plus ordinaire, quoi.
Ouais, alors je dirais que je sais pas si on peut dire qu'il y a des moins bons ou des meilleurs, je dirais que c'est des expressions différentes.
D'accord.
Un peu comme dans toutes les régions viticoles, on est sur des types de sols qui vont être différents. Pour ceux qui ne situent pas trop au Cognac, ça va de l'île de Ré et de l'Hérault jusqu'à Angoulême et au nord de Bordeaux. Et en fait, forcément, quand on va être proche de la côte, on va être sur des sols beaucoup plus sableux. Et quand on va s'approcher de la région de Cognac, on va être sur des sols avec des dominantes calcaires et qui vont apporter en fait des arômes différents aux raisins et donc du coup...
Et chaque cognac, vous assemblez les crus différents ? Vous pouvez faire du monocru, je ne sais pas comment dire ?
Alors le cognac est un produit d'assemblage par excellence parce qu'on va assembler des crus ensemble et différentes années. Après, on peut aussi travailler des monocrus et des millésimés, qui est aussi une des particularités.
Et il y a les millésimés aussi à Cognac ?
On peut aussi millésimer, oui.
C'est nouveau ça, non ?
Non, ça a toujours été fait. Ça a été un peu plus contraint avec la nouvelle législation pour éviter qu'il y ait des faux qui soient faits. Donc aujourd'hui, tout ça est très bien encadré. Toutes les, tous les vins, toutes les autres vies sont mis dans des barriques qui sont scellées et qui sont sous contrôle du BNIC.
Donc c'est fini, il n'y a plus de bidouille maintenant.
Il n'y a pas de bidouille.
Très bien, Hélène.
Je pense qu'il y en a eu dans le passé et que justement...
Quelques noms peut-être de viticulteurs ou de distillateurs bidouillants?
Bah, j'aimerais bien vous les donner, mais je ne les connais pas.
La maison la plus célèbre, c'est la maison bidouille.
C'est ça.
Voilà. Hélène.
Donc votre distillerie se trouve dans le premier cru de Cognac, la Grande Champagne. Vous avez jusqu'à 13 chais. C'est pour éviter les risques d'incendie, les risques de vol, c'est pour diviser... vous avez une cuvée dans chaque chais, ça marche comment?
Alors c'est historique, premièrement parce que c'était plutôt des rachats qui ont été faits au fur et à mesure, et il y a aussi une question en effet de répartition du risque pour éviter que si ça part en fumée, tout parte en même temps.
Et ça arrive ça ou pas?
Ça peut arriver.
Hélas, on n'est jamais à l'abri. Je vous demandais si vous aviez autant de chais que de cuvées, parce que vous en avez beaucoup des cuvées.
Alors oui, c'est pour rebondir sur ce que disait Alain tout à l'heure. En effet, c'est vrai que nous, on est assez curieux. Donc on va proposer pas mal de cuvées traditionnelles, mais on va aussi travailler sur des monocrues, des millésimés. On va même faire des sélections parcellaires. Je pense notamment à notre cuvée Château de Triac, qui est une sélection de nos vignes qui est vieillie au château. Et c'est une notion un peu plus viticole. Plus que spiritueuse.
Et au total, combien de bouteilles, Edouard, vous vendez chaque année, vous produisez chaque année à peu près, en moyenne?
Nous, on fait 100 000 bouteilles annuellement.
Ah, mais c'est pas mal déjà, il faut les vendre. Et vous les vendez où d'ailleurs? Tout en Chine?
On les vend dans le monde entier. Alors historiquement, du fait d'avoir un ancrage norvégien, on a commencé par la Scandinavie, parce que c'est là qu'on avait de la famille, des réseaux. Mais on s'est au fil du temps...
Diversifié,
étendu sur d'autres marchés. Et aujourd'hui, on va vendre en Amérique du Nord, en Europe et jusqu'en Asie.
Et de façon générale, l'appellation vend toujours à plus de 95% hors de France ou ça s'est un peu stabilisé?
Oui, aujourd'hui, le cognac est majoritairement vendu hors de France. Donc, il y a quelque chose qui...
C'est plus que la majorité. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est essentiellement vendu hors de France.
Quelques dictateurs africains qui aiment bien ce genre de score. Quoi. Non, mais c'est vrai. Et pourquoi en France, on n'en boit pas?
Alors, c'est une grande question.
Alors, c'est le whisky, c'est pas le cognac.
On est un pays quand même consommateur d'alcool brun, parce que les whisky et les rhums sont énormément consommés en France. Le cognac aussi a été fait et pensé par des étrangers à la base. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de familles, si on pense à Annecy, Martel, ce sont des étrangers qui sont venus s'installer dans la région, et comme nous, les Norvégiens,
comme vous aussi,
et qui après, en fait, ont diffusé le produit à travers le monde. Et c'est vrai qu'en France, il y a quand même des cycles, si on remonte 30 ans en arrière, c'était énormément consommé. C'est un petit peu perdu au profit du whisky. Mais on voit quand même, on a quelques signaux faibles d'un retour d'intérêt. De la
Philippe Orbach, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous, vous qui avez notamment aussi un restaurant, le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Haussmann, pour que justement on inverse un peu la tendance? On aime beaucoup les gens du whisky, mais c'est quand même dommage qu'on ne boit pas plus de cognac en France, avec différents cocktails notamment qui existent. Le cognac a tout pour faire au moins jeu égal avec le whisky, non?
Le cognac a une image de produit de fin de repas, de digestif par excellence, et pas spécialement d'assemblage, sauf dans quelques cocktails historiques célèbres. Mais sinon, c'est plutôt dégusté en tant que tel. Alors que le whisky, par exemple, le rhum, rentre volontiers dans la composition de cocktails qui sont très tendances aujourd'hui. Donc peut-être effectivement faire évoluer les choses. Les gens de cognac ont essayé, sur des eaux de vie plus jeunes, sur des eaux de vie plus accessibles.
Du flaconnage plus sexy aussi.
Aussi plus contemporain, un peu plus bartender que nécessairement restauration traditionnelle ou autre. Et la difficulté de ce genre d'eau de vie, c'est d'acheter une bouteille et puis qu'elle reste éternellement sur une étagère on en a pris un verre et puis finalement...
Donc ça veut dire que l'image de la belle-mère, le feu de cheminée, le labrador, pour l'instant ça perdure, Edouard. Il faut vraiment la casser, on n'a rien contre les grands-mères, les belles-mères, mais quand même.
C'est vrai que ce que vous venez de dire, c'est tout à fait vrai. C'est souvent ce qu'on nous... Quand on évoque le mot cognac, c'est un peu le retour qu'on a. C'est en train d'évoluer. Il y a une jeune génération, je dirais, qui est en train de prendre conscience.
Vous avez quel âge,
en fait,
Edouard, d'ailleurs?
Moi, j'ai 37 ans.
Oh, très bien. Hélène?
Et alors, ça évolue notamment grâce à des maisons comme Brastad, qui, par exemple, a lancé une cuvée bio. Donc ça ne peut que plaire, effectivement, à une plus jeune génération. Et puis, une cuvée qui, moi, personnellement, me fait rêver. Alors, les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais ils ont sorti... Donc, Brastad a sorti une cuvée avec des artistes norvégiens, parmi lesquels les membres du groupe AA. Alors, ça vous dit peut-être rien à vous, mais c'est tellement merveilleux, le groupe AA. Je veux dire, quand on avait 20 ans, on écoutait ça.
C'est pas ABBA?
Non, je vous jure, c'est autre chose. Et c'est tellement chouette.
C'est, en effet. Alors, c'est vrai qu'on essaie toujours de proposer, d'explorer des horizons différents. La cuvée bio, c'est une cuvée qu'on avait lancée il y a quelques années maintenant. L'idée, c'était vraiment d'encourager d'avoir des pratiques plus vertueuses en termes de viticulture. Même si pour nous, ce n'est pas une finalité d'être bio, parce qu'il y a plusieurs modes de culture. Donc l'idée, c'est de toujours rester curieux.
Pour terminer, vous avez un site internet pour prendre enseignement, pour venir vous voir, parce que vous êtes très sympa. Il y a un site, non ?
Oui, bien sûr, vous pouvez nous rendre visite sur le site www.brastad.com.
Merci beaucoup, Edouard. Merci également à Christophe Lançon, Philippe Forbrac, Hélène Piau, millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. On se retrouve sur sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook, le compte Instagram. Instagram Invino Sud Radio. Et rendez-vous demain à 12h30 pour un nouveau numéro d'Invino délocalisé chez Nicolas Le Cavis qui a été fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français. Surtout respectez la plus grande des modérations. Salut.
Sud Radio Invino.